L'actualité des Alpes du Sud, du nouveau matériel pour le train de nuit Paris-Briançon commandé par l'État.
Une annonce faite hier par le ministre des Transports, Philippe Tabarot, dans le cadre des trains d'équilibre du territoire. 180 wagons et 27 locomotives ont été commandés avec une priorité pour la ligne Hautes-Alpes-Capitale dans l'optique des JO d'hiver de 2030.
La délinquance en baisse sur la commune de Manosque.
Selon les chiffres de 2024, elle diminue de presque de 12% au sein de la cité Giono par rapport à 2023. Selon le maire, c'est grâce au renforcement des effectifs de la police municipale et à l'installation de caméras de vidéosurveillance. Et
Nicolas Soldat, il est le nouveau président de la FDSEA 04.
L'éleveur ovin à Gréoux-les-Bains a été élu lundi à l'unanimité des membres présents. Il succède à Laurent Despied, désormais président de la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence.
À Barcelonnette, Yvan Bouguillon, candidat à sa succession.
6 mois après avoir remplacé Sophie Vaginéricourt, devenue députée, le maire se voit continuer dans un mandat qui sera marqué par les JO d'hiver 2030. Il promet des investissements sur le plan sportif.
Et puis le sport avec les Rapaces de Gap en danger dans leur opération maintien.
Les Bleus et Noirs se sont inclinés 3-1 hier soir dans le derby face aux Diables Rouges de Briançon. Les Rapaces sont derniers ce matin de la poule de maintien et en position de relégable. 1 point derrière Cergy et 2 derrière Anglette.
Les Hautes-Alpes, entendu par le ministre des Transports à propos du train de nuit Paris-Briançon.
Celui-ci est victime de défaillances chroniques avec 98 retards sur 220 entre janvier et novembre 2024 pour les voyageurs, et ce alors que les élus du territoire réclament de longue date des investissements sur la ligne. Le président du département des Hautes-Alpes, Jean-Marie Bernard, le vice-président en charge des transports, Marcel Cana, et le maire de Briançon, Arnaud Murgia, ont été entendus hier. Le ministre Philippe Tabarot a lancé la procédure de renouvellement du matériel roulant. Près de 180 wagons et presque une trentaine de locomotives ont été commandées dans le cadre des trains d'équilibre du territoire. Bonjour Jean-Michel Arnaud.
Bonjour.
Vous êtes le sénateur des Hautes-Alpes. Vous étiez également présent lors de cette annonce faite par le ministre des Transports qui promet une livraison avant 2030. Alors pourquoi est-ce réaliste selon vous ce calendrier ?
D'abord, au-delà du calendrier, la décision est déjà importante et à souligner parce que cela fait maintenant des décennies. Nous roulons aujourd'hui sur la ligne des Alpes avec essentiellement du matériel qui date de 1975. C'est inacceptable et finalement l'élément majeur de la décision, c'est la décision elle-même. Enfin, l'État souhaite réinvestir sur du matériel à la hauteur des exigences de la clientèle d'aujourd'hui, avec de la Wi-Fi, avec potentiellement des cabines individuelles. Oui, des prises électriques. Vous voyez, donc on sort finalement du 19e siècle pour entrer dans le 21e, et je pense que la décision est importante. Maintenant, les délais sont courts. L'avis d'appel public à la concurrence est la première étape de la procédure de marché public pour l'acquisition de ce matériel roulant. Le ministre, à l'initiative de cette décision, nous a indiqué que le matériel dont vous avez précisé le nombre et la nature serait prioritairement affecté à deux lignes de train de nuit, Paris-Briançon, mais aussi le Paris-Nice, c'est-à-dire pour notre région Sud-Provence-Côte d'Azur. Maintenant, il faut carburer hein, dans tous les sens du terme. Mais je tiens aussi à préciser que cette situation ne résoudra en rien les problèmes de retard et les difficultés de circulation qui ne sont pas liées au matériel roulant, mais bien à l'infrastructure. Et là aussi, en lien avec la région pour la partie ligne des Alpes, mais aussi avec la région Rhône-Alpes, région Sud, et la région Rhône-Alpes pour l'autre partie vers Valence, on a un gros travail à faire parce qu'une grande partie des difficultés que nous avons aujourd'hui sur le train de nuit vient au fait que le train de nuit arrive à Valence, entre sur la ligne vers les Alpes avec régulièrement du retard, parce que le fret marchandise est prioritaire sur le fret passager, parce que nous avons des difficultés, et pas simplement sur la ligne de Valence, mais aussi sur la ligne des Alpes, à pouvoir automatiser certaines gares qui, depuis des années, ont été désertées dans tous les sens du terme, à la fois par du personnel et parce que on n'a pas d'automatisation pour les croisements. Et quand on a une ligne qui est une ligne unique, la seule façon, c'est d'automatiser les croisements. Donc on a à la fois le matériel roulant, mais aussi le matériel d'infrastructure sur lequel à la fois les régions, mais aussi le gestionnaire de l'infrastructure doit investir massivement. Si on veut à la fois sur du matériel roulant pouvoir mettre des passagers en plus grand nombre et en meilleure qualité pour la desserte, mais aussi travailler sur l'infrastructure, c'est les deux mamelles, si vous me permettez, du projet qui doivent permettre, j'espère, d'ici 2030, pouvoir améliorer sensiblement l'attractivité à la desserte des Hautes-Alpes par le chemin de fer.
Très rapidement, est-ce que des investissements ont été évoqués lors de cette réunion avec le ministre ?
Il y a un deuxième aspect qui est important, c'est quand même l'aspect routier, parce que là aussi, il faut marcher sur ses deux jambes. Il y a le ferroviaire et le routier. Le routier contribue aussi, dans un département montagne, à la desserte et à la mobilité du quotidien. Là aussi, avec les élus, avec Jean-Marie Bernard, Marcel Cana, Arnaud Murgia, nous avons insisté pour que le programme et la capacité à faire du conseil départemental, le département recrute actuellement des équipes d'ingénierie, est en capacité aujourd'hui et s'engage à réaliser 224 millions d'euros sur les routes départementales. Nous avons également la RN 94 qui est sous compétence État. Il faut rapidement, avec la Solideo, avec l'État et notamment le préfet de région, que nous soyons en capacité territorialement de faire remonter nos besoins et d'obtenir dans le cadre des enveloppes qui seront attribuées pour l'organisation des JO 2030, des crédits nécessaires pour réduire l'autofinancement du département et aussi moderniser et remettre à niveau notre réseau départemental et notre réseau national. Et avec cela, nous aurons un équilibre pour la desserte du quotidien, mais aussi la desserte au long terme et l'attractivité touristique, l'attractivité connue de notre département avec le chemin de fer.
Merci monsieur le sénateur d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Alpe 1.
Un feu s'est déclenché sur la façade d'un immeuble à Manosque.
C'était dans le quartier du Clos des Alizis hier vers 16h50. L'incendie qui s'est déclaré au niveau de l'isolant de la façade et dont la fumée entrait dans les bâtiments n'a pas fait de victimes. Il a été éteint par une douzaine de sapeurs-pompiers basalpins engagés grâce à l'aide de quatre engins. Les secours ont également retiré l'isolant qui se consumait et ventilé les locaux.
Et bien on reste du côté de Manosque avec la délinquance qui est en baisse dans la commune.
Selon les chiffres de 2024, elle diminue précisément de 11,8% au sein de la cité Giono par rapport à 2023. C'est une diminution de 44% des vols liés aux véhicules. C'est moins 30% pour les vols par effraction. La ville qui constate également une baisse de 29% des dégradations des biens alors que le taux d'élucidation lui est en hausse de 38%, des chiffres qui s'expliquent par une augmentation des effectifs de la police municipale depuis 2020. En moins de 5 ans, le nombre de policiers municipaux à Manosque est passé de 20 à 29, rappelle le maire Camille Galtier, on l'écoute.
Les effectifs n'ont cessé de croître depuis 4 ans. La police municipale, c'était 20 effectifs sous M. Richard, c'est aujourd'hui 29. Il y en aura un 30e d'ici 2026. Il y a une présence policière tous les jours, du lundi au dimanche, jusqu'à 1h du matin. Ce n'était pas le cas avant. Il y a beaucoup plus de caméras, donc je pense que ça participe à la question des élucidations. On sait que c'est prouvé, hein, la vidéoprotection permet d'élucider plus facilement. On avait eu d'ailleurs le cas il y a un an et demi avec la question du braquage qu'il y avait eu au tabac du Mont d'Or et au tabac de Saint-Tulle, puisque ça avait permis d'appréhender les suspects ou du moins d'avoir l'identification du véhicule. Donc il faut qu'on continue, ça permet d'avoir une ville plus sécurisée, une ville où le commerce peut de fait mieux prospérer, et c'est le sens aussi de l'action de l'État et l'action de la collectivité, c'est d'avoir une ville sécurisée, ça permet d'avoir des commerces qui se développent et avoir une économie qui se développe, mais si c'est pas le cas quand c'est difficilement sécurisé.
1 million d'euros de plus par an sont mis sur la table par la municipalité depuis 2020 pour assurer la sécurité. Un point noir toutefois, les incivilités quant aux excès de vitesse qui continuent de se multiplier. Quant à la question des trafics de stupéfiants, le maire précise qu'à Manosque, il n'y a pas ce qui s'est passé à Digne-les-Bains avec des commerçants qui se font taper. Il y a de la drogue, oui, mais elle est jugulée.
Nicolas Soldat, nouveau président de la FDSE à 04.
Les administrateurs du syndicat agricole basalpin se sont réunis lundi à Malmoisson. C'est l'éleveur Auvin à Gréoux-les-Bains qui a été élu à l'unanimité des membres présents. Il succède à Laurent Despieds qui est désormais président de la Chambre d'agriculture basalpine depuis vendredi dernier.
Et puis Yvan Bouguillon, candidat aux élections municipales 2026.
L'ancien premier adjoint de Barcelonnette occupe désormais le fauteuil de maire depuis août dernier. Cela fait suite à l'élection de Sophie Vaginéricourt à l'Assemblée nationale. 6 mois plus tard, il dit se sentir suffisamment à l'aise pour avoir envie de continuer dans un mandat qui sera marqué par les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises avec la station du Sceaux Super Sceaux sélectionnée pour accueillir le futur centre de préparation des athlètes. Un levier à actionner pour le maire puisqu'il faudra des équipements sportifs à la hauteur dans sa ville. L'occasion également de mettre un vrai coup de neuf au terrain de football.
Mais il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, malheureusement, il a été en plus largement impacté par les inondations de décembre 2023. Donc c'est vrai qu'il est plus aux normes. Le club de foot nous dit que bientôt, ils n'auront peut-être plus la possibilité de jouer. Oui, c'est une priorité.
Et donc,
les Jeux Olympiques n'étaient pas là, je ne sais pas comment on arrive à financer le ticket pour avoir éventuellement un synthétique, pour refaire une piste d'athlétisme qui soit aux normes.
C'est ce qu'il a envisagé, là.
Ben, je pense, oui, absolument. La piste d'athlétisme fait 360 mètres. Une piste d'athlétisme, ça fait 400 mètres. Il faudra qu'il y ait une piste d'athlétisme de 400 mètres, parce que sinon, quelque part, ça ne sert à rien de poser la première pierre du centre d'entraînement s'il n'y a pas autour les infrastructures qui vont avec. Et ça sera profitable pour toute la vallée. Et au-delà, je pense, finalement, pour les Provençaux en général.
Yvon Bouguillon, qui était l'invité du 8-30 d'Alpe 1 hier, a retrouvé dans l'intégralité son entretien sur Alpe 1.
Et puis dans l'actualité ce matin, ce constat. Les jeunes de 16 à 19 ans lisent de moins en moins.
Un jeune sur 5 ne lit jamais dans le cadre des loisirs. Et même si 84% des jeunes lisent pour l'école, leurs études ou leur travail, ce chiffre est en baisse de 6 points par rapport à 2016. Ce sont les résultats d'une enquête du Centre National du Livre. Alors pour y remédier, des initiatives se mettent en place, comme le quart d'heure de lecture. C'était le cas hier dans le lycée Paul Arène de Sisteron. Après la récréation, les élèves ont été invités à lire une quinzaine de minutes par leurs différents professeurs, dont Geneviève Pug, professeur documentaliste du lycée.
Le quart d'heure de lecture, c'est un quart d'heure où on est en classe, mais on n'est pas en classe, on s'évade. On prend un livre, une revue, on s'éloigne des écrans et on lit. Ça plaît tellement que beaucoup de collègues font un peu plus qu'un quart d'heure. Parce qu'un quart d'heure de lecture en soi, dans l'année, c'est rien. À un moment où justement on se rend compte que les élèves lisent de moins en moins, en fait on ouvre les portes. Et notre but ici, en tout cas au lycée, c'est de faire en sorte que ce quart d'heure se répète souvent, que ce soit en cours ou en dehors des cours. Et ce n'est pas destiné qu'aux élèves, c'est aussi le personnel. En fonction de la possibilité et de la faisabilité, on s'arrête et on lit pendant un quart d'heure. La presse, tout ce qui peut être un moment de lecture qui ouvre vers autre chose.
La professeure documentaliste qui indique également qu'un fossé se creuse entre les élèves qui lisent beaucoup et ceux qui lisent peu, elle souhaiterait, avec ce type d'opération, revenir à un juste milieu.
Et on termine avec un mot de sport et les Diables Rouges de Briançon sans pitié hier soir pour les Rapaces de Gap.
Malgré le maintien assuré, les Rouges et Noirs ont répondu présents à l'Alpe Arena pour cette quatrième journée de la poule de maintien. Les Briançonnais se sont imposés 3-1 en marquant 2 buts dans le dernier tiers du match. Les Gapensais qui sont désormais derniers de cette poule des play-downs car dans le même temps, Anglette s'est imposée à Cergy Pontoise 2-1. Les Basques ont 51 points, les Franciliens 50 et les Hauts-Alpins 49. Il reste 2 matchs au Rapace pour corriger le tir. Le prochain, c'est vendredi à partir de 20h30 à Cergy, tandis que Briançon sera en déplacement à la même heure à Anglette.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.